That was the freedom bell to remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour, we transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone, apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech. Communication.
Grenoble, 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Grenoble pour cette nouvelle apérophonie. On s'excuse d'ailleurs du petit retard que nous avons pris. Avec moi ce soir, Nina.
Bonsoir. Effectivement, notre apérophonie se consacre pour la deuxième fois à l'Europe. Nous retrouvons en studio avec nos invités pour approfondir davantage le sujet.
Et oui, effectivement, on se place dans la continuité de l'émission qu'on avait consacrée à ce sujet il y a maintenant 2 semaines. N'hésitez pas à aller écouter le podcast d'ailleurs. Et nous avons choisi de faire une seconde émission car à la fin de la première, nous étions tous d'accord pour dire qu'il y avait encore de nombreux sujets à aborder.
Nous retrouvons les mêmes invités que la dernière fois à un changement près. On a en ce moment Léo, Jean-Christophe et Malo. Est-ce que Léo, tu veux commencer par te représenter rapidement ?
Me représenter, bonjour à tous. Je suis Léo Litwout, président de l'association Think Libéral Sciences Po Grenoble. On est une association de débat sur différents sujets de société, économie, politique. Et on cherche à promouvoir les libertés individuelles dans tous ces domaines-là.
Merci, Jean-Christophe.
Bonjour, donc toujours trésorier des Jeunes Européens. Notre association promeut le débat sur les questions européennes et défend principalement les valeurs, plutôt l'idée du fédéralisme européen.
Et enfin, Malo, notre invité insolite.
Insolite.
pour la deuxième apérophonie sur l'Europe.
Bonjour, du coup, Malo, coprésident de l'association Contre-Courant de Sciences Po Grenoble, qui est aussi une association de débat qui cherche à promouvoir une critique et des alternatives au néolibéralisme économique. Et voilà.
Ok, merci à tous d'être venus, d'être revenus pour parler de l'Europe. La dernière fois, on a été un peu frustrés parce qu'il y avait en effet beaucoup de sujets dont on n'a pas eu le temps de parler. Est-ce que pour commencer cette émission, vous pourriez chacun notre tour vous nous dire quelle était ou quelle est la dernière nouvelle au sujet de l'Europe qui vous a marqué ces derniers temps ou récemment ?
Alors à mon sens, c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est plutôt dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est le cafouillage autour du Brexit et les perturbations que cela peut occasionner autour des élections européennes. On est dans une période de grands débats politiques, on l'a vu déjà hier soir avec un débat télévisé entre les différentes têtes de liste, et on se dit que finalement, beaucoup de têtes de liste qui décidaient il y a quelques années, et même très récemment jusqu'à l'élection présidentielle, de rejeter en bloc l'Union européenne, se retrouve aujourd'hui face à l'impasse du Brexit et commence à remettre les choses en question. Donc ça remet beaucoup de choses en question au niveau européen.
Jean-Christophe, Malo, un de vous ? Jean-Christophe.
Alors sur un autre sujet, ce qui m'a marqué la semaine dernière, c'est la visite du président Xi Jinping en Italie et en France. On a pu bien voir... Que la Chine profitait en ce moment de certains pays européens qui souhaitent faire cavalier seul, comme l'Italie, mais on a aussi le cas de la Pologne, alors que la France essaye avec Emmanuel Macron, essaye de défendre une position commune. Par exemple, Emmanuel Macron a imposé au président Xi Jinping, qui n'en voulait pas, une réunion avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, afin de montrer un semblant de front commun.
Alors moi, je dirais, c'est plus dans le détail au niveau national, mais en lien avec le débat qu'il y a eu hier soir, la difficulté pour certains candidats de se faire inviter quand certains étaient... Enfin, France 2 avait sélectionné un certain nombre de candidats, et au final, il y a eu des recours pour qu'il y en ait plus. Et ça montrait quand même, vu le nombre de candidats qu'il y avait hier soir, ça montrait le nombre d'options possibles qui sont présentes aux élections européennes, et on se dit qu'on est quand même pas rendu.
On peut peut-être commencer là-dessus. D'ailleurs, on va faire un rappel pour nos auditeurs. Hier soir, sur France 2, il y avait un débat avec les 12 candidats de l'élection européenne qui se rapprochent. 12 candidats, ça fait beaucoup. C'était le cafouillage. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que ça vous a intéressé? Ou quel sentiment avez-vous perçu?
Bah, à titre personnel, je n'ai pas regardé le débat. Je me suis concentré sur les analyses du lendemain. C'est assez souvent ce que je fais quand il y a des débats comme ça télévisés. Ce qui en est ressorti, c'est d'ailleurs, ça a totalement justifié la raison pour laquelle je n'ai pas regardé le débat, c'est que ce débat, c'était en effet un cafouillage. Entre 12 candidats, c'était assez compliqué de se faire entendre. Il y avait des coupures de paroles, il y avait des coupures d'idées, les idées se recroisaient. Et c'était assez compliqué d'entendre quoi que ce soit. Au final, on s'est rendu compte que même certaines listes qui se voulaient plutôt pro-européennes, comme la liste Renaissance qui est portée par Nathalie Loiseau, avaient au final certaines positions qui pouvaient être plutôt nationales et plutôt contraires à ce qu'on pourrait attendre d'elles. Donc je ne sais pas vraiment quoi penser de ça, si ce n'est que aujourd'hui on voit que la classe politique n'a pas l'air vraiment prête à relancer l'idée européenne autour d'un nouveau projet, d'un projet commun, si ce n'est juste simplement se diviser, s'écharper comme ils le font aussi bien dans des élections nationales.
Malo ?
Alors moi, je ne l'ai pas regardé non plus, je ne pouvais pas, j'étais pas là, mais pareil, j'ai suivi un peu ce qu'en est ressorti dans les médias. Donc par ailleurs, je ne suis pas spécialement friand de ce genre de débat, parce que pareil que Léo, je trouve que c'est assez illisible et qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et que c'est plus un festival de punchline parfois qu'autre chose, et qu'on en retire mal vraiment ce que les candidats peuvent... Enfin, en tout cas, ce que le débat peut apporter entre les candidats.
Jean-Christophe ?
Alors moi, pareil, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le résumé fait par Le Monde sur leur chaîne YouTube. Ça montrait bien que c'était quand même un gros bordel. Et au final, les candidats n'avaient que 12 minutes chacun pour s'exprimer sur tous les sujets pendant 3 heures. Ce qui fait que, comme l'a dit Malo, c'était vraiment le concert des punchlines. Et en fait, c'était surtout l'occasion pour tous de balancer une idée, parce qu'ils savent qu'il n'y a que ça qui en ressortira. Par exemple, l'exemple de Benoît Hamon, qui a ouvertement était le seul défendu l'idée de donner le siège au Conseil de sécurité de la France à l'Union européenne. Et qu'il n'a pas pu vraiment expliquer pour son choix du coup pendant ce débat, mais du coup c'est vraiment la foire à toutes les idées les plus folles parfois, ou en tout cas les plus bizarres, et absolument pas, ça ne permet pas de présenter un vrai projet européen dans son ensemble, ni d'y voir plus clair. Et puis au final, c'est pas vraiment un débat, donc c'est dommage.
Bon, et on va passer à un autre sujet. On va être obligé d'en parler, ça fait l'actualité depuis maintenant très longtemps. Il y a du nouveau du côté du Brexit. Et alors là, c'est une question toute simple. Encore une fois, on va pas essayer d'analyser le Brexit, de savoir si c'est bien ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si est-ce que le comportement de l'Union européenne vis-à-vis du gouvernement de Theresa May, à votre avis, le bon, est-ce qu'il faut continuer à laisser des délais au Royaume-Uni pour négocier cette sortie, ou est-ce qu'il faut dire à un moment, ça suffit, stop, on s'arrête? Léo, peut-être?
Ce qu'on voit récemment dans les dernières négociations, c'est que l'Union européenne a été assez intransigeante envers le Royaume-Uni et envers Theresa May. Dans un premier temps, puisque Theresa May avait demandé un report jusqu'au 30 juin, il me semble, et que l'Union européenne a catégoriquement refusé, a dit c'est pas possible, on vous accorde un report de 15 jours maximum. Donc un report qui aura lieu au 12 avril, donc ça reste quand même dans une semaine, et on voit que même dans une semaine, on n'est pas prêt, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui adviendra du Royaume-Uni. Donc oui, en effet, l'Union européenne a été très intransigeante, mais continuer à reporter cela, ça peut, à mon avis, déjà, dans un premier temps, attiser les foudres des partisans d'un hard Brexit, donc qui veulent, eux, parfois même une sortie sans accord, et une sortie dure en tout cas. et qui ont peur que justement ces reports continuent à attiser, enfin à mettre le Brexit dans le flou et peut-être même à plonger le Royaume-Uni dans une situation de Brexit éternel où bah, le Royaume-Uni resterait dans une zone grise entre sortir ou pas de l'Union européenne. Et dans un deuxième temps, continuer les reports comme ça, en dehors de la situation nationale britannique, ça a un coût certain pour l'Union européenne. Donc le principal problème reste le Brexit en lui-même, au départ, la manière dont il a été mis en place et la manière dont il a été défendu par ses partisans, qui était, c'est aujourd'hui reconnu par tous, mais qui a été complètement faussé, qui a été faite sur la base d'informations erronées, d'arguments fallacieux. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Brexit qui ne fonctionne pas. Et donc il y a deux choix qui s'offrent au Royaume-Uni, c'est sortir maintenant avec l'accord qui a été proposé, mais dans ce cas-là, ça propose au Parlement britannique une énorme division, et le Parlement britannique n'est pas prêt à ça, soit ne pas sortir du tout, et pour cela, je pense que la solution principale resterait d'appeler un second référendum.
Oula, alors, Jean-Christophe.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense pas que l'Union européenne ait été intransigeante. Et si elle l'a été, je pense qu'en fait, elle n'avait pas le choix parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas accorder un délai jusqu'au 30 juin parce que ça voudrait dire que si le Royaume-Uni restait après ça, on aurait eu un Parlement européen sans députés britanniques. Et en fait, c'est légalement impossible. Et que ce soit la Commission ou les États européens, ils sont limités par le droit européen. Ils ne peuvent pas enfreindre ce genre de règles. Donc en fait, l'Union européenne n'a pas mieux à offrir que ce qu'ils ont fait, et c'est peut-être même déjà trop au Royaume-Uni. Moi, je pense qu'ils devraient se mettre rapidement d'accord. Soit ils restent, et dans ce cas-là, l'Union européenne leur a proposé de rester en ayant des députés européens au Parlement jusqu'à la fin de l'année, et d'ici là, ils se décident sur est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils partent. Ça pourrait être une bonne solution, même si politiquement ce serait un fiasco, puisqu'avoir des députés britanniques au Parlement européen, ce serait incompréhensible. Sinon, il faut accepter l'accord ou partir sans accord. Je crois que Angela Merkel a dit qu'elle veut compter sur les Britanniques pour proposer un nouveau plan la semaine prochaine et que sinon, il fallait qu'ils partent le 11 avril. Et
ça se rapproche voilà. À grands pas. Malo, Léo a parlé d'un second référendum. Si la possibilité de conclure avec ce Brexit n'est pas possible, est-ce que rapidement tu as quelque chose à ajouter?
Alors moi, je pense pas qu'un second référendum serait une bonne chose. Alors déjà, sur la position de l'UE, de savoir si elle est bonne ou elle est pas bonne, je saurais pas dire, mais en tout cas, elle est tout à fait compréhensible. Parce que dans une perspective où il y a quand même un membre important de l'Union européenne qui s'en va, ne pas être intransigeant, ça laisserait un peu la porte à d'autres membres un peu de partir. Enfin, c'est un peu dire, vous allez galérer et la position intransigeante fait que vous galérez encore plus. Et du coup, ça dissuade un peu d'autres pays qui seraient tentés par l'avenir de partir, où on pourrait leur mettre en avant l'épouvantail du Brexit et les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Donc après, sur le second référendum, je pense que c'est totalement une mauvaise chose parce qu'il y a quand même un vote qui a été fait. Et là encore, remettre un nouveau vote, en fait, ça voudrait dire qu'au final, il ne vaut rien parce que si du coup on revient sur une décision qui a été prise par référendum et qu'on en fait un nouveau, qu'est-ce que ce référendum vaut de plus que l'ancien? Et du coup pareil, pour toutes les décisions futures qui pourraient être prises via ce genre de décision, ça pose problème. Ça posera aussi la question d'un second référendum aussi pour l'Écosse, pour l'indépendance écossaise. Donc ça pose quand même pas mal de questions, donc je pense pas qu'un second référendum soit une bonne solution. Après, sur la question du hard Brexit ou d'une sortie avec accord. On verra dans les semaines prochaines ce qui va se passer, mais personnellement, j'ai pas spécialement d'avis sur la manière dont ça devrait se passer.
On a parlé aussi des disparités qu'on peut voir dans l'Union européenne la dernière fois, et là, ce serait peut-être intéressant aussi de revenir sur comment on fait pour gouverner une Union européenne avec des disparités en termes d'orientation politique, en tout cas, dans les différents régimes. Je pense par exemple à l'Italie, à la Hongrie, à l'Espagne et le Portugal, la France et l'Allemagne. Comment on fait pour retrouver la possibilité de gouverner dans l'Union?
Oui, et puis est-ce qu'il faut le faire, en fait, aussi? Très important.
Alors, à titre personnel, je suis très partisan d'une Union d'une union politique dans les grandes lignes, c'est-à-dire une union, c'est ce qui a été tenté avec le traité constitutionnel qui malheureusement n'est pas passé, enfin malheureusement à mon sens n'est pas passé, ce serait de donner une union politique avec des grandes lignes politiques. C'est ce qui se fait dans la plupart des États fédéraux, c'est-à-dire qu'il y a un socle de valeurs, un socle de principes politiques à respecter qui doit être respecté par tous les États. Donc que ce soit le respect de l'état de droit, ce qui on peut voir aujourd'hui n'est pas forcément le cas dans tous les États, le respect de certains modes de décision, certains modes d'élection, certains types de scrutin, c'est à mon sens ce qui doit être respecté. Après, en revanche, je ne pense pas que l'Union ait son mot à dire sur la politique interne des États. Les États sont quand même plus proches des citoyens pour beaucoup de questions que l'Union européenne en elle-même. C'est d'ailleurs ce qui est défini par les traités avec le principe de subsidiarité, puisque l'Union n'est pas censée s'immiscer dans la politique là où d'autres niveaux de gouvernance peuvent le faire. Donc l'Union ne se met pas dans la politique des écoles primaires, par exemple, tout simplement parce que d'autres niveaux de gouvernance, donc que ce soit les communes, que ce soit les États, peuvent le faire. L'Union européenne, elle, a son mot à dire sur les questions où les autres niveaux de gouvernance ne sont pas spécialement, aptes à prendre des décisions. Donc ces niveaux de gouvernance-là, à mon avis, ils doivent exister. Donc ça doit être des niveaux de gouvernance, l'état de droit, les droits de l'homme, sans doute la politique étrangère. Mais en tout cas, en aucun cas, les affaires de politique interne. Donc en effet, s'il y a des disparités, très bien. Autant qu'il y ait des disparités, ça permet d'avoir un pluralisme politique et d'avoir une diversité d'opinions au sein de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas forcément... je pense que personne ne souhaite que Jean-Claude Juncker vienne décider à la fois de comment on doit gouverner une province bulgare et un département français.
Alors moi, je ne suis pas sûr que la question ce soit de savoir s'il faut gouverner une province bulgare. Mais alors déjà, gouverner... la question, c'était comment on gouverne les
avec
différents...
des pays tellement atypiques, tellement différents en termes de régime politique.
Après, voilà, justement, ça dépend ce qu'on veut gouverner et à partir de quels instruments et quels moyens on donne à ces politiques-là. Mais justement, je pense que, par exemple, avoir une politique monétaire comme on a aujourd'hui ou même la coordination des politiques budgétaires qu'il peut y avoir sur des pays aussi différents, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de gouverner ces pays avec autant de disparités. D'autant plus, ces disparités-là, on les voit aussi au niveau fiscal ou au niveau social.
Mais la gouvernance, elle est bonne quand même sur certains points ou pas du tout?
Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport à ça.
Dis-le.
Donc, non, moi, je serais plutôt d'ailleurs pour... je pense que, justement, les traités européens empêchent d'avoir une politique positive, on va dire, envers les différents pays de l'Union européenne, surtout envers les pays du Sud. Donc on voit, quand on voit ces disparités-là, par exemple entre l'Allemagne ou les différents pays du Sud qu'on sait vraiment souffert de la crise, c'est difficile d'avoir une politique uniforme pour des besoins qui sont différents.
Ouais, un mot de la fin, Jean-Christophe.
Si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, peut-être aussi que si les pays du Sud ont souffert, ça dépend. Il y a beaucoup de vrai, la gestion de l'euro a influé, mais ça peut aussi dépendre de tout simplement des gouvernements en place. On voit que le Portugal décolle en ce moment en faisant les bonnes politiques, qui ne sont pas des politiques de rigueur d'ailleurs. Pour revenir à ta question, Nina, elle sous-entendait qu'aujourd'hui c'est compliqué, voire impossible de gouverner. En fait, ça dépend sur quel sujet et à quel niveau. Au niveau très politique, au niveau des chefs d'État, sur des grandes questions, c'est très compliqué. C'est très difficile d'avoir un nouveau traité si on en voulait un. Mais dans les affaires de tous les jours, il y a tous les jours des décisions qui sont prises. Lundi dernier, par exemple, les ambassadeurs au Conseil de l'Union européenne se sont mis d'accord pour augmenter les fonds de Frontex et augmenter la défense des frontières européennes, la surveillance des frontières européennes. Donc il y a toujours des choses qui se font, mais c'est vraiment par petits pas, des petites choses qui se font. Donc on avance très lentement.
Bon, merci beaucoup. On va se faire une première pause musicale. On va écouter Another Land de Lucille Fourse.
Et on reprend dans cette apérophonie, c'était Another Land de Lucille Firth. Pour embrayer à nouveau, on pourrait peut-être revenir sur le débat d'hier. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas regardé, mais pour parler de la transition écologique. Hier, trois phrases résonnent du débat. Et sur chacune d'entre elles, j'aimerais avoir votre avis. Alors la première, c'est « Si le climat se réchauffe, c'est l'Europe la première qui devra payer les pots cassés. » Qu'est-ce que vous en pensez, Léo ?
C'est l'Europe la première qui devra en payer les pots cassés. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire première de manière directe, parce qu'il y a quand même d'autres continents, d'autres pays qui souffriront beaucoup plus du dérèglement climatique que l'Europe. Mais c'est vrai que l'Europe a un rôle très important à jouer d'un côté, parce qu'un dérèglement climatique important va inévitablement entraîner des migrations climatiques qui seront d'autant plus importantes. Et l'Europe, on le voit déjà aujourd'hui avec une crise migratoire dont elle n'arrive pas à se sortir, devra également gérer une crise migratoire climatique. Ça, c'est un premier pas. Et deuxièmement, un second point qui sera la politique générale de l'Union européenne. Donc, premièrement, sa politique dans plein de domaines, en fait. L'écologie touche à plein de domaines, que ce soit la politique agricole, la politique sociale, puisque la crise environnementale est liée à une crise sociale. Et enfin, une crise aussi industrielle de son modèle de consommation, etc. Quel rôle l'Europe a à jouer là-dedans ? Je ne suis pas sûr que ce soit à l'Union européenne politique de jouer son rôle. Je pense que l'Union européenne politique a longtemps fait preuve de ses difficultés, à mettre en place des politiques efficaces dans plein de domaines. Si on veut mettre en place des politiques efficaces, et il y a bien un domaine où il faut être efficace, c'est sans doute l'écologie et le climat. Je ne suis pas sûr que ce soit l'Union européenne qui soit la plus efficace là-dedans, et je désespère un petit peu de voir une politique écologique émerger de l'Union européenne, donc sans doute se rabattre sur des politiques venant plutôt des collectivités locales, éventuellement des États, mais là aussi les États n'ont pas été particulièrement performants durant les dernières années. Donc la société civile et les collectivités locales.
Ok, deuxième phrase pour un deuxième invité. Si le climat était une banque, ça fait longtemps que l'Union européenne l'aurait sauvée. Malo, je te vois sourire. Est-ce que celle-là t'inspire ?
Tu peux répéter ?
Si le climat était une banque, ça fait longtemps que l'Union européenne l'aurait sauvée.
Alors, bon, c'est assez drôle, mais je suis pas sûr que, disons que, ah, je sais pas trop quoi répondre à ça. Peut-être Jean-Christophe, je sais pas si tu veux y aller.
Pas vraiment, mais je pense que c'est quand même une phrase, ça saute un peu aux yeux quand même, qui est un petit peu facile. Maintenant, il y a du vrai. Clairement, c'est aussi en fonction des missions qu'on donne à l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne se concentre beaucoup plus sur des questions économiques. Et la BCE aussi, la Banque centrale, sa priorité, c'est de garder la stabilité des prix. Si on lui assigne une autre mission, elle ferait autre chose. Donc on pourrait très bien dire que la mission principale de la BCE, c'est de protéger le climat plutôt que de protéger la stabilité des prix. Et donc, d'une certaine manière, les banques, à un moment, on pourrait faire ça. Maintenant,
est-ce que ça serait efficace ? Créer une banque pour le climat, peut-être que là on trouverait des fonds nécessaires.
Potentiellement oui. Maintenant, une banque, ça suffit pas. C'est pas, faut pas juste qu'on puisse prêter. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura de l'emprunt pour autant, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui empruntent derrière. Mais oui, ça serait une bonne idée. Donc une banque pour le climat, ou transformer la BCE en une banque pour le climat, ou la banque d'investissement plutôt, ce serait intéressant, oui. Après, c'est pas l'Union européenne qui doit plus se bouger, je pense. C'est les États qui doivent donner plus de pouvoir, surtout donner cette mission à l'Union européenne. Ils doivent dire à l'Union européenne, c'est notre priorité. Tant que les États ne le disent pas, l'Union européenne ne peut pas aller contre les États, donc ne peut pas en faire sa priorité.
Ok, merci. Et la dernière phrase, c'est le meilleur ami de l'écologie, c'est la frontière.
Oula. Alors. Est-ce qu'on a un auteur à cette phrase qui...
Oui, est-ce que tu peux le deviner, l'auteur de cette phrase?
J'imagine que l'auteur de cette phrase est situé sur la droite radicale de l'échiquier politique.
Plutôt, ouais.
Le meilleur ami de l'écologie, c'est la frontière. Alors, c'est assez rare d'entendre la droite radicale s'intéresser à la question écologique. C'est assez rare et assez drôle, d'ailleurs, puisque je ne sais pas trop ce qu'ils ont à dire là-dessus. Mais le meilleur ami de l'écologie, c'est la frontière. Je ne pense absolument pas. Je pense qu'on voit aujourd'hui que les États qui ont le plus de frontières, les États qui aujourd'hui sont le plus renfermés sur leur politique nationale, finalement sont des États qui sont des États productivistes, des États industrialistes, et qui au final ne font absolument rien pour l'écologie. Donc je pense que le meilleur ami de l'écologie, ce serait non pas la frontière, mais plutôt l'ouverture vers d'autres modes de fonctionnement et qui ne sont pas du tout centrés sur l'État, mais sur la localité et sur l'individu au final.
Je suis désolé pour tous nos auditeurs, je ne sais pas s'ils entendent le bruit, mais...
Il se passe des choses à M ce soir.
Non, Radio Campus n'est pas attaqué, tout va bien. Il y a seulement des DJ, on répète, juste en dessous. Mais ça devrait aller, on peut reprendre sereinement.
Moi je voudrais rebondir quand même sur le meilleur ami de l'écologie, c'est la frontière. Est-ce que quand même, sans être forcément d'accord complètement, vous y voyez un sens, une logique?
La logique, j'imagine, le message qu'a voulu faire passer son auteur avec ça, c'est l'idée que grâce aux frontières, on peut bloquer les produits qui ne seraient pas écologiques, et on peut, j'imagine que si on bloque les gens,
recentrer sur le local, surtout, c'est ça que ça veut dire.
C'est ça. Maintenant, je suis pas d'accord. Alors, je suis d'accord dans le sens où si on met des frontières, et notamment des frontières économiques fortes, ça pourrait avoir du bon pour l'écologie, parce que tout simplement le PIB va s'effondrer, ou en tout cas va ralentir, du coup on va moins produire et on va moins polluer. Mais d'un autre côté, si on garde les frontières ouvertes, ça veut aussi dire qu'on est interdépendant avec le reste du monde et qu'on peut influer. Ça veut dire que si on garde les frontières ouvertes, on continue d'acheter des produits chinois, et on peut dire aux Chinois, on vous achète des produits que s'ils respectent certaines normes. Donc en fait, l'Union Européenne, en étant le premier marché économique du monde, peut dicter en fait ses normes, et c'est déjà le cas d'une certaine manière, et elle peut dicter beaucoup plus ses normes au reste du monde et aux producteurs, parce que ce sont les pays producteurs qui polluent. L'Europe en réalité ne pollue pas tant que ça quand on compare au reste du monde. Tout le plastique qu'il y a dans les océans vient des fleuves d'Asie, là où on produit. Et si on leur imposait des normes, parce que c'est aussi nous qui sommes bien contents d'acheter des produits le moins cher possible, si on imposait des normes et qu'on était prêt à payer plus cher, on pourrait améliorer la situation dans des pays comme la Chine ou le Vietnam.
Malo, est-ce que tu as quelque chose à... Est-ce qu'un repli sur soi écologique serait envisageable ou serait favorable à une transition
Alors, un repli sur soi écologique, ça dépend comment on l'entend. Je pense pas que la notion de repli sur soi soit la plus pertinente. Alors, sur la question de frontières, déjà, je pense que le jour où on aura des millions de migrants climatiques à nos frontières, je pense pas que la frontière à ce moment-là sera la bonne solution pour régler l'écologie. Mais par contre, je suis plutôt partisan d'une sorte de protectionnisme écologique, notamment au niveau des normes environnementales sur les produits qu'on peut accepter ou non. Et je pense que ça passera forcément par ça. On peut pas... je crois que c'est Yann Brossat dans le débat qui parlait de ça, mais si on fait venir du mouton de Nouvelle-Zélande, c'est complètement anti-écologique.
Il parlait des trajets en avion aussi. Il disait c'est pas l'ouvrier qui utilise sa voiture et qui pollue, c'est les ménages qui se permettent plein de voyages tout au long de l'année.
D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'on vit pas encore, mais qui arrivera, je pense, en France, qui va se propager. En ce moment, en Suède, on parle beaucoup du fly shaming, c'est-à-dire que les Suédois ont de plus en plus honte de dire qu'ils prennent l'avion et prennent de plus en plus le train, et en fait les aéroports en Suède sont de moins en moins utilisés, ce qui est le seul cas en Europe où ça arrive, puisque les aéroports en ce moment sont de plus en plus envahis par les touristes. Et en Suède c'est l'effet inverse, et je pense que c'est quelque chose qui va potentiellement et probablement même se propager au reste de l'Europe et peut-être au-delà.
Mais sinon, figure-toi que c'est Bellamy, les Républicains, qui disaient que la mondialisation, dans le sens où on consomme à des kilomètres de chez nous, c'était plus possible d'un point de vue environnemental. C'est lui qui parlait de ça pour protéger aussi notre environnement. C'est-à-dire que produire acheter chinois, ce serait même plus envisageable, finalement, au-delà du marché.
On va peut-être se refaire une petite pause musicale. histoire d'ajuster les volumes.
Cause du concert qui est dehors, très très agréable par ailleurs.
On écoute Two Room de Motel, excusez-moi, de Scott Gilmore.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus, on écoutait Scott Gilmore. Sciences Po Grenoble organise une journée européenne autour du sujet « Faut-il sauver l'Europe ?» Pour tenter de répondre à cette question, Antoine vous lance sur plusieurs sujets.
Oui, et la première question c'est « Faut-il sauver le soldat Schengen ?» Un des débats qu'on a beaucoup entendu hier soir, c'est... je sais pas, il y a un fou rire dans le studio. Bon, c'est un truc assez fréquent quand je prends la parole. Et pendant le débat hier soir, on a beaucoup entendu des candidats remettre en question l'espace Schengen. Est-ce que le bilan de l'espace Schengen est positif ?
Alors pour revenir du coup au débat, moi je suis assez d'accord avec, j'ai déjà oublié le nom, la candidate, la tête de liste LREM,
L'Oiseau,
voilà, donc qui expliquait que selon elle, et je suis tout à fait d'accord, Schengen a supprimé les frontières internes, ce qui est une très bonne chose, mais du coup il faut maintenant renforcer Schengen aux frontières externes et avoir une vraie politique dure ou pas en fonction de la majorité au Parlement, mais en tout cas avoir une vraie politique d'immigration commune, avoir des gardes-frontières européens et plus des gardes-frontières bulgares, espagnols, maltais, et que le poids aussi de l'immigration soit partagé et que ce soit pas simplement la pauvre île de Malte qui récupère tous les demandeurs d'asile.
Quelqu'un souhaite rebondir? On est toujours en plein concert, j'espère que ça s'entend pas trop à l'antenne.
Pour rebondir et essayer de couvrir un peu ce vacarme environnant, il faut sauver le soldat Schengen, bien sûr qu'il faut le sauver le soldat Schengen. Une ouverture des frontières telle qu'elle a été faite depuis la création de l'espace Schengen, c'est quelque chose d'assez incomparable qu'on a rarement vu ailleurs. Et c'est quelque chose qui a un bilan, somme toute, vraiment très positif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire de cet espace Schengen? Premièrement, l'uniformiser à l'échelon de tous les membres de l'Union européenne. Alors certains membres ne sont pas encore prêts, entre guillemets, selon la Commission européenne, à être ouverts à l'espace Schengen, comme ils ne sont pas encore prêts à recevoir la monnaie unique. Je pense que cet espace Schengen n'est que bénéfique pour les États qui en bénéficient. Alors là où j'ai un léger point de divergence avec Jean-Christophe, c'est que cet espace Schengen qui a libéré les frontières internes de l'Union européenne ne devrait pas, à mon sens, servir à créer une Europe forteresse où on aurait des frontières renforcées à l'extérieur de l'Union européenne. Pour moi, l'ouverture des frontières, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique. Donc l'ouverture des frontières à la fois pour les personnes, donc c'est ce qu'on a vu avec l'espace Schengen, aujourd'hui on peut voyager tranquillement comme n'importe qui entre les différents pays de l'Union, les différents pays de l'espace Schengen, pardon. On peut également commercer avec tous les pays, donc c'est la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux également, et je pense qu'on devrait tendre à ouvrir ces frontières pour les personnes, pour les marchandises et pour les capitaux avec le reste du monde. Donc l'Union européenne ne devrait pas continuer à faire cette Europe forteresse. Alors certes, on a des problématiques à gérer qui sont les problématiques migratoires, mais on devrait avoir une politique bien plus ouverte et bien moins restrictive. Certes, comme Jean-Christophe l'a dit, le faire à l'échelle de l'Union, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement quelques États qui a géré la crise migratoire entière, mais que ce soit l'Union européenne qui la gère et qui la gère de manière ouverte.
D'accord, donc plutôt effectivement un bilan positif pour l'espace Schengen d'après toi. Toi Malo aussi, un bilan positif ou plutôt peut-être un retour à des frontières plus nationales?
Alors, un retour à des frontières nationales, pas forcément, ça dépend ce qu'on appelle frontières. Je suis pas forcément, moi, je suis contre la liberté de circuler pour, les travailleurs ou, disons, les humains, contrairement aux capitaux. Mais par rapport à la politique d'immigration de l'Union européenne, je ne suis pas aussi optimiste que toi, Jean-Christophe. Hein. Tu dis avoir une politique commune de l'Union forte, mais on voit bien que pendant la crise migratoire, ça n'a absolument pas été possible et que c'est justement ça qui a cristallisé les tensions entre les différents pays. On voit aujourd'hui avec des pays comme la Hongrie qui veulent rétablir plus ou moins leurs frontières, on voit que ça pose quand même un grand problème. Donc là, je suis pas sûr qu'il y ait un bilan si positif que ça, dans le sens où tout le monde au final n'y adhère plus tellement. Et sur le côté externe, on voit bien que ça pose quand même des questions de, en effet, où arrivent les migrants. Les pays ont des charges totalement différentes. Et on a plus une tendance à délaisser les pays du sud de la Méditerranée qui sont les premiers concernés.
Et d'ailleurs, en parlant du sud de la Méditerranée, hier au débat, l'Afrique était un sujet important. Quelle relation devrait avoir l'Union européenne avec l'Afrique, continent d'avenir, peut-être ?
Mais je pense que l'Union européenne doit être un partenaire et le partenaire privilégié de l'Afrique. C'est une place que, tristement, on avait déjà au XXe siècle, puisqu'on était les anciennes puissances coloniales, mais c'est une place qu'on est en train de perdre, et la Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Afrique. D'ailleurs, on voit que souvent, quand une motion est proposée par la Chine à l'Assemblée des Nations Unies,
la plupart des pays africains votent avec la Chine, même quand des pays comme la France ou les États-Unis votent contre. Donc ces pays-là suivent de plus en plus la Chine, des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, etc. Et du coup, l'Union européenne doit investir beaucoup plus en Afrique pour récupérer cette place de premier investisseur, pour développer l'Afrique afin d'éviter ces migrations qui sont un déchirement pour les populations et pas seulement pour les Européens. Et aussi parce que oui, l'Afrique est certainement, une partie de l'Afrique en tout cas, un continent d'avenir. Des pays comme le Congo resteront probablement toujours dans l'état dans lequel ils sont malheureusement. Mais des pays, à cause de toutes leurs ressources qui font qu'on n'arrivera jamais à empêcher les guerres civiles ou l'ingérence des États. Mais des pays en ce moment comme le Mozambique, l'Éthiopie ou le Kenya sont en plein boom économique à quasiment 10% de croissance pour certains. Donc c'est clairement un continent d'avenir. Et le continent d'avenir, c'est le continent de la fin du 21e siècle, voire ou du 22e siècle.
Alors à mon sens, oui, l'Afrique est un continent d'avenir. Simplement, l'Union européenne ne doit pas la voir comme un partenaire privilégié tel qu'elle le fait aujourd'hui. L'avenir ne se joue pas au niveau de l'Afrique comme le partenaire qu'elle est aujourd'hui, mais au niveau de tous les partenaires qu'il peut y avoir, donc la Chine, l'Afrique, le reste du monde, sur un pied d'égalité. À mon sens, déjà, dans un premier temps, l'Union européenne devrait mettre un terme à toute l'ingérence politique qu'elle peut avoir en Afrique. Donc, c'est ce qui est défendu par certains hommes politiques qui, malheureusement, n'ont pas énormément d'écho sur la scène médiatique. Mais la fin de la France-Afrique, entre guillemets, et du coup de l'Europe-Afrique, de manière assez générale, le poids que la Chine joue en Afrique peut être, à mon avis, compensé dans un premier temps avec des accords économiques justes et des accords économiques d'égal à égal entre l'Union européenne et l'Afrique, et deuxièmement l'union politique qui est en train de se créer entre la Chine et les différents pays d'Afrique peut aussi être compensée par une place importante de l'Union européenne sur la scène internationale, et l'Union européenne qui pourrait là aussi concurrencer la Chine et lui voler sa place d'intervenant principal en Afrique et redonner à l'Afrique une réelle position politique. Donc l'Union européenne doit, à mon avis, non plus considérer que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique comme des partenaires d'égal à égal, comme des partenaires, pardon, de seconde classe, mais doit les considérer comme des partenaires d'égal à égal.
Malo, t'as quelque chose à ajouter peut-être ?
Moi, plutôt que de... Enfin, pour revenir à ce que tu disais, Jean-Christophe, je vois pas forcément l'Afrique comme un endroit où il faut avoir une stratégie d'investissement actif, mais plus, enfin, on devrait peut-être plus commencer par la laisser tranquille. Et justement, je pense que bon, la France particulièrement et les pays européens plus largement, je pense que la politique qui est menée généralement en Afrique, ça n'a pas forcément quelque chose de bon. Ça renvoie souvent à des questions soit d'armes, soit d'extractivisme, soit, comme tu le disais Léo, d'ingérence politique. Donc je sais pas exactement, enfin je m'y connais pas particulièrement sur le sujet, comment on pourrait voir un partenariat ou enfin comment imaginer un partenaire entre l'Union européenne et l'Afrique, mais je pense que sur certains sujets les États européens feraient mieux de commencer par se poser un peu la question de leur action là-bas.
Antoine, une relance?
Bah peut-être même une question finale.
Non. Non, bah, pas une question finale, on a encore un petit peu de temps, mais moi je voudrais parler de la menace chinoise, parce que du coup on a parlé de l'Afrique et des Chinois en Afrique potentiellement. On a aussi parlé du marché de la 5G beaucoup dans l'actualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour le futur de l'Union européenne, comme faire attention à nos partenaires?
Oui, très clairement, le problème de la 5G, en fait, donc le problème de Huawei est un gros problème et un gros défi en fait pour l'Europe, puisque... Pour résumer simplement, Huawei donc est une entreprise qui est plus ou moins dirigée par l'État et qui du coup participe à la stratégie de l'État communiste chinois. Elle a été la fille du PDG de Huawei a été accusée de vol de données industrielles au Canada, et elle est en ce moment en détention au Canada. Donc la question c'est de savoir est-ce que avoir des antennes Huawei à Paris par exemple ne serait pas une menace pour la sécurité nationale. Donc il y a deux solutions: soit on considère que on doit prendre tous les acteurs, toutes les entreprises sur un pied d'égalité, et du coup on considère que Huawei est juste une entreprise comme une autre, soit soit on l'interdit comme l'ont fait les États-Unis par exemple. Moi je suis plutôt pour l'interdiction parce que une entreprise qui est étatisée comme ça est dangereuse et elle n'est pas, elle ne joue pas sur un pied d'égalité avec les autres entreprises de toute façon. À voir comment l'Union européenne se débattra avec ça.
La question de interdire ou pas Huawei, c'est à mon sens une question principale. C'est comment ça se fait qu'aujourd'hui l'Union européenne et on a pu le voir, le Canada ou les États-Unis se retrouvent à devoir interdire Huawei. C'est que Huawei a déposé sur ces marchés-là son poids économique, le poids économique qui est finalement celui de la Chine et qui est un poids économique dominant. La question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on interdit à une entreprise qui a un poids économique dominant d'exercer ses fonctions sous prétexte qu'elle a une ingérence politique ? Alors en effet, il y a un certain danger. Ou est-ce qu'on se dit, on se pose la question de comment ça se fait que cette entreprise ait une position dominante ? On prend un peu de recul. On se dit, cette entreprise a une position dominante et elle est chinoise, elle n'est pas européenne, parce qu'en Europe, on a tout un tas de régulations, tout un tas d'entraves au développement économique qui fait qu'on n'a toujours pas, et qu'on n'aura sans doute pas avant un certain nombre d'années, de géants numériques comme ça. Donc on a le cas de Huawei, mais on a aussi le cas de, on pourrait avoir aussi le cas de Google ou de Amazon ou de Facebook, qui ne seraient pas ce coup-ci chinois, mais qui seraient américains. Les géants du numérique, aujourd'hui, ne sont pas européens, et l'Union européenne devrait pouvoir se doter de ces géants du numérique, et n'aurait à ce moment-là pas à se poser la question de Huawei qui abuse de sa position dominante à des fins politiques. Parce qu'en effet, on voit, c'est la même chose avec beaucoup d'entreprises dans beaucoup d'États qui sont très présents, comme la Russie, comme la Chine. Ces entreprises-là n'ont pas une simple visée économique, mais ont aussi des visées politiques. Ben, l'Union européenne doit justement se démarquer de ces entreprises-là, et aider à mettre en place des géants économiques, aider à mettre en place des vrais poids économiques qui puissent concurrencer ces acteurs-là, et qui, eux, n'aient pas de vision politique, mais uniquement un poids économique, et qui, du coup, rétablirait une certaine justice du numérique en Europe.
Malo, tu es d'accord avec ça ? Il y a une visée politique à ce qui s'est passé avec Huawei, contre laquelle il faut que l'Union européenne lutte ?
Alors, peut-être, je ne sais pas exactement la visée politique de Huawei, mais en tout cas, je ne pense pas que pour autant... les géants du numérique comme Google ou Amazon n'aient pas de visée politique, tout au contraire. Donc quand on voit la présence qu'ils peuvent avoir justement dans les instances politiques ou par rapport à l'Union européenne, quand on voit la présence qu'ils peuvent avoir dans les différentes institutions européennes, donc je ne pense pas qu'ils n'aient pas de visée politique. Après, sur la question de devoir développer des géants européens qui auraient, eux, qu'une visée économique, encore une fois, je ne pense pas qu'ils n'auraient qu'une visée économique. Mais je suis pas sûr que faire émerger des géants européens pour concurrencer les géants américains règle en fait les problèmes que posent les GAFA actuellement, qui sont des problèmes de données, d'évasion fiscale, d'emprise, de droits sociaux aussi par rapport aux conditions. Souvent, enfin, on voit Amazon, les conditions de travail des employés, et aussi, je sais pas si vous connaissez les employés qui travaillent, qui font des micro-tâches pour Amazon, je sais plus exactement, Amazon Mechanical Truck, c'est du micro-travail, c'est des employés qui sont payés à la micro-tâche, donc je pense pas que ce soit forcément une bonne idée de faire émerger d'autres géants similaires. Enfin, je dirais plus dans la réglementation justement de ces GAFA qui sont déjà présents, bien qu'elle soit compliquée pour régler les différents soucis que ça peut poser.
Et enfin, pour conclure cette émission, est-ce que, d'après vous, l'Europe peut-elle incarner un espoir pour les Français ? Là, au vu, par exemple, des élections européennes, est-ce que l'Europe est encore vecteur d'espoir ?
Ben, à mon sens, l'Europe peut être vecteur d'espoir comme elle peut être vecteur de désespoir. C'est pas l'Europe en elle-même qui véhicule ou pas des espoirs, c'est ce que les gens en font. Aujourd'hui, on a une offre politique qui apparemment n'a pas vraiment de volonté de faire de cette Europe un espoir pour les gens. Au contraire, les gens se satisfont bien de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire avec des États qui, au final, n'en font un peu qu'à leur tête, s'écharpent entre eux, puis finalement se mettent d'accord uniquement quand ils le veulent. L'Europe peut incarner un espoir si on finit par regarder la situation dans les yeux. La situation dans les yeux, quelle est-elle ? Les États aujourd'hui n'ont pas de poids suffisant face à des géants comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, on en parlait à l'instant. Et les États, à eux seuls, ont des difficultés à gérer certains types de politiques. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'Union européenne doit pouvoir être génératrice d'espoir. Il faut que des gens, que des acteurs politiques en fassent un projet rempli d'espoir. Dans d'autres sens, l'Union européenne peut être utilisée à bien des escients qui ne semblent vraiment pas nécessaires. Et je pense que ce ne serait pas du coup à l'Union européenne de devenir un moteur d'espoir, mais plutôt à d'autres niveaux de gouvernance, recentrer la gestion politique sur à la fois le local, à la fois sur les individus, sur la société civile aussi. Il ne faut pas tout remettre, à mon avis, à l'État, il ne faut pas tout remettre, à mon avis, aux régions, il ne faut pas tout remettre à l'Union européenne non plus. Je pense que là où on peut réellement trouver de l'espoir, c'est là où les gens le mettent. Donc, à mon avis, là où les gens devraient mettre leur espoir, c'est en eux-mêmes.
Oh, c'est si beau pour terminer. Jean-Christophe, ton mot de la fin.
Je suis assez d'accord avec Léo, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait et de comment on présente l'Europe. En fait, j'ai l'impression que plus on profite de l'Europe et plus on est pas ingrat, mais moins on y voit les bons côtés, en fait, on finit par les oublier, ça finit par être normal. Je rappelle qu'il y a des pays qui rêveraient d'être dans l'Union européenne, notamment dans les Balkans de l'Ouest, par exemple. La Macédoine a changé son nom en République de Macédoine du Nord pour pouvoir rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est quand même pas rien. Un pays comme l'Ukraine se déchire en ce moment et est en quasi-état de guerre, enfin, et de guerre civile pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Le dernier dictateur ukrainien a été déposé parce qu'il a refusé de signer l'accord avec l'Union européenne économique. Donc il y a des gens en dehors de l'Europe qui rêveraient d'y être. Et je pense que, du coup, il y a des raisons de croire en l'Europe et d'en espérer beaucoup. Il faut simplement, l'Europe est là, il faut faire beaucoup avec ce que nous donne l'Europe et lui permettre d'en faire beaucoup aussi.
Alors moi, pour le coup, je ne vais pas être d'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit un espoir. Donc s'il y a des gens qui rêvent d'y entrer, il y a aussi des gens qui rêvent d'en sortir. Et la Grèce, par exemple, qui est rentrée, je ne suis pas sûr que ça a été totalement bénéfique pour elle jusqu'au bout. Et donc, à la fois au niveau des États, je pense que, enfin, en ce moment, pour des États, notamment ceux du Sud, l'Europe, je vois pas ce qu'elle a de bénéfique et en quoi elle peut être un espoir pour eux quand on voit à quel point elle les contraint à la fois au niveau de la politique monétaire et budgétaire. Et je pense pas qu'elle soit un espoir, en tout cas dans les traités actuels, au niveau de la transition écologique, quand on voit que les difficultés qu'on a à investir dans la transition écologique, sachant encore une fois par rapport au traité budgétaire, comment c'est compliqué de dépasser un déficit pour avoir les réels moyens qu'il nous faudrait pour investir dans la transition écologique. Et aussi, un espoir pour qui, c'est pareil au niveau individuel, ça dépend des gens. Je pense que beaucoup de gens, on a à peu près rien à foutre, si je peux dire, de l'Europe. Et en aucun cas, c'est un espoir pour eux. Et même, je pense qu'ils la voient plutôt comme une source ou en tout cas une cause de leur désespoir.
On a compris. Très très vite, merci à tous les trois d'être venus pour nous parler de l'Europe. Il va falloir qu'on rende l'antenne. C'est la fin de cette apérophonie.
Merci
à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous trois d'être venus. Et on se retrouve très très vite sur Radio Campus.